Nous sommes donc entrés dans le temps de l'Avent et les quatre prédications qui sont à venir, dont celle-ci, donc ces quatre prédications auront pour thème cette saison particulière de préparation des cœurs à la fête de Noël. Alors, je vais être un peu facétieux pour commencer. Des chants nouveaux. Ils sont créés un par jour, ou presque, aujourd'hui. Mais des chants qui valent vraiment la peine d'être repris, parce que riches, profonds et accessoirement à la portée de tous, nous, les vieux compris, pas sûr qu'il en sorte tant que cela. C'est un cantique que j'aimerais vous entretenir ce soir, un cantique comme je les aime, théologiquement irréprochable, littérairement admirable, et musicalement, si je puis dire, accessible. L'avantage d'une pièce composée par un homme relativement âgé, on n'y trouve donc que peu de syncopes, de dissonances et autres poisons de ce genre, pour nous. Mais ne nous égarons pas davantage. De quel beau cantique s'agit-il? Eh bien, du cantique improvisé par le vieux Zacharie à l'occasion de la naissance miraculeuse de son fils Jean. Jean, que l'on appellera plus tard le Baptiste ou encore le Baptiseur. Alors, rappel des faits, qui est Zacharie? C'est un prêtre, parent de Marie, par son épouse Élisabeth, mais surtout c'est un homme heureux, notamment depuis que l'ange du Seigneur en personne lui a personnellement et solennellement annoncé que son épouse stérile jusque-là lui donnerait bientôt un fils et que ce fils inespéré aurait pour mission insigne de préparer l'avènement du Messie lui-même en ramenant au Seigneur leur Dieu beaucoup d'Israélites. Alors, 9 mois ont passé, le fils promis est né, et respectant en cela scrupuleusement la consigne divine, Zacharie vient tout juste de lui donner le nom de Jean. Et c'est alors que, rempli d'Esprit Saint, nous dit Luc, l'évangéliste, Zacharie se met à parler en prophète. Et dit, et là je vous invite à entendre ce chant que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, dans les versets 68 à 79. Luc 1, versets 68 à 79. Comme je ne vous donne pas la page, je vous laisse le temps de trouver le texte. Enfin, pour ceux qui consultent leur Bible. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Quel poème! Alors il mériterait d'être médité dans son entier ce soir, mais faute de temps, nous n'en méditerons que la première partie, les versets 68 à 75, qui constitue l'un des plus beaux hymnes qui soit rendu à la grâce de Dieu. Notons ceci d'emblée qu'à la source de ce cantique exemplaire, nous trouvons deux sujets d'émerveillement. Le premier, Dieu a tenu sa promesse. Et le second, Dieu a envoyé un sauveur. Dieu a tenu sa promesse. Il y a quelques années, un hebdomadaire national publiait un article dans lequel l'auteur reprenait une à une toutes les promesses faites par le nouveau président de la République alors qu'il n'était encore que candidat, pour les classer en trois catégories. Promesse tenue, promesse revue, promesse oubliée. Les hommes ont du mal à tenir parole. Dieu, non. Il est fidèle. Il est fidèle. Et ce qu'il promet, tout ce qu'il promet, il l'accomplit sûrement. Témoin privilégié de cette fiabilité divine sans faille, Zacharie, notre ami, qui se souvient de l'engagement solennel pris par son Seigneur de secourir son peuple. Une sainte alliance, chante-t-il au verset 72. Un serment, ajoute-t-il dans le verset suivant, fait à Abraham, notre ancêtre, dont le contenu était l'envoi, autant fixé, d'un sauveur unique, chargé d'offrir à tous ses fidèles une immense et glorieuse délivrance. Un pacte dont Zacharie rappelle au verset 70 qu'il a été publié jadis par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Et que Dieu donc a respecté à la lettre. Une fois le moment propice arrivé, en effet, Dieu a envoyé un sauveur. Dieu a envoyé un sauveur. Et c'est là le second sujet d'émerveillement de Zacharie et de nous tous. Après lui, depuis que l'ange du Seigneur lui a parlé, Zacharie sait. Il sait que le fils qui vient de lui être miraculeusement donné est un signe. Le signe que le Sauveur annoncé est tout proche, puisque le rôle de Jean, son garçon, sera de l'annoncer. Il considère donc aussitôt l'antique promesse divine comme réalisée. C'est pour lui comme si Dieu, verset 68 en particulier, était déjà intervenu en faveur de son peuple et qu'il avait déjà assuré sa rédemption. Et cela par l'intermédiaire de son serviteur, appelé à être le sauveur non seulement d'Israël, mais encore du monde entier. Le nôtre donc aussi. Vous aurez sans doute noté que Zacharie ne le désigne pas directement. Ce sauveur n'en est pas moins au cœur même de son hymne. Pour une raison très simple, parce qu'il résume à lui seul la grâce infinie, inépuisable et éblouissante de Dieu. D'où notre propos maintenant, relever ce que Zacharie nous dévoile de l'identité de ce sauveur, d'une part, et de son œuvre, d'autre part. L'identité de ce sauveur, d'abord. Il est à la fois homme et Dieu. Homme, il l'est à coup sûr, puisque nous dit Zacharie au verset 69, jaillit de la famille de son serviteur David. Mais Dieu également. Outre que sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, Zacharie lui reconnaît au verset 68, traduction littérale, cette caractéristique éminemment divine qu'est la force de salut, il le salue implicitement au verset 76, comme le Seigneur en personne dont Jean est appelé à préparer le chemin. Homme donc et Dieu à la fois. Admirable déclinaison d'une identité exceptionnelle, unique. Son jeune parent, qui portera bientôt le nom de Jésus, est Dieu lui-même, venu à la rencontre de son peuple sous la forme d'un homme pour assurer son salut. Oui, Jésus, Dieu fait chair, Dieu incarné, pour pouvoir nous représenter, nous, devant Dieu, et au jour du jugement, se substituer à nous pour payer à notre place le prix de nos fautes. Et nous voici parvenus tout naturellement au second thème évoqué par Zacharie après l'identité, l'œuvre de ce Sauveur. L'œuvre de ce Sauveur. De quelle mission Dieu l'a-t-il chargé au moment de l'envoyer rejoindre les siens? D'une mission rédemptrice, nous dit celui qui ici fait, une fois encore, œuvre de prophète. D'une mission consistant pour l'essentiel à faire de son peuple un peuple d'affranchis. Verset 68, déjà, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Début du verset 69 ensuite, et verset 71 également. « Et de nous avoir donné un puissant sauveur, ajoute Zacharie, qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. » Versets 74 et 75, enfin, dans la traduction NBS, « Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. » La mission du Sauveur, donc, délivrer les siens, nous délivrer. Mais nous délivrer de quoi? Réponse de Zacharie, de nos ennemis, dit-il, et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Car il faut savoir, nous avons des ennemis. Un en particulier qui, depuis l'origine des temps, nous veut du mal. Et j'ai nommé ici Satan, bien sûr, lequel, en nous détachant de Dieu, comme il est parvenu à le faire dans le jardin d'Éden, en nous convainquant un peu trop facilement, hélas, d'affirmer clairement notre autonomie par rapport au Créateur, nous a réduit d'un coup à ne plus pouvoir servir un autre que lui. Ainsi, tombés entre ses mains destructrices, nous sommes devenus captifs de ses noirs desseins. Je veux parler surtout de sa détermination rageuse à nous rendre définitivement incapables de faire autre chose que pécher, c'est-à-dire offenser Dieu, histoire de s'assurer qu'au dernier jour, nous ne pourrons pas échapper à son terrible jugement, à son effroyable colère. Prisonniers, nous le sommes donc de l'ennemi par excellence, ennemi de Dieu, ennemi des hommes, du péché dans lequel il nous a entraînés et de la mort à laquelle il nous a condamnés. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, parce qu'il est un Dieu de grâce, a envoyé un sauveur pour assurer notre rédemption, notre rachat pour nous, libérer, nous affranchir, nous délivrer, quel que soit le terme que nous retenons finalement. Et comment cela? Eh bien, par le moyen de ce sacrifice que nous avons évoqué il y a quelques instants. Par le moyen de son sacrifice d'abord et de sa résurrection ensuite. Cette résurrection qui nous a fait nous lever à la suite de Matthieu. Son sacrifice, d'abord. Si Dieu a envoyé ce Sauveur parmi nous, c'est, nous le savons, pour qu'il meure à notre place. En deux mots, ce qu'il voulait est que ce Sauveur se charge, lui, de nos péchés. Tous nos péchés. Et détourne alors sur lui la colère qui nous visait et qui devait nous emporter. Et c'est ce qui s'est produit à la croix. Jésus, le serviteur du Seigneur, paru parmi nous en sauveur, a pris sur lui toutes nos fautes pour que Dieu le frappe, lui, et pas nous. C'est ainsi que par sa mort, Jésus nous a définitivement soustrait, nous, à la mort. Affranchi de la mort en tant que juste rétribution du péché, nous le sommes donc bien par le sacrifice du Sauveur annoncé par Zacharie. À la condition toutefois, faut-il le rappeler, que nous ayons reconnu dans ce sacrifice le seul moyen par lequel nous pouvons échapper à la mort aujourd'hui. Et libérés du péché en tant que style de vie, nous le sommes également. Mais par la résurrection cette fois de notre Sauveur, sa résurrection. Car en l'arrachant au tombeau, comme il l'a fait un certain dimanche de Pâques, que nous aurons l'occasion de célébrer un peu plus tard, un certain dimanche de Pâques, vieux maintenant de près de 2000 ans, Dieu n'a pas ramené à la vie son serviteur seulement, mais tous ceux aussi qui, à compter de ce jour, s'attacheraient à lui comme à leur sauveur. Maintenant, mettons-nous d'accord sur ce qu'il faut entendre ici par vie. Par vie, nous devons comprendre vie éternelle, bien sûr. Mais pas uniquement. Vie nouvelle. Vie nouvelle. Autrement dit, vie selon Dieu. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Rome, et je lis dans la Bible en français courant, la traduction me paraît particulièrement appropriée. Nous avons été enterrés avec lui, Christ, pour être morts avec lui, afin que tout comme le Christ a été ramené de la mort à la vie, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. Car, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis par une résurrection semblable à la sienne. Et l'apôtre de poursuivre, sachons bien ceci. L'homme ou la femme que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Le péché, conclut l'apôtre Paul, ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments pour accomplir le mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des hommes et des femmes revenus à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service, comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, ce soir. Vous avez été libéré du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Fin de citation. En un mot commençant, nous qui nous sommes liés à Christ par la foi, nous avons été ramenés à la vie avec lui. Et cette vie dans laquelle nous a introduit notre résurrection commune est d'un tout autre genre que celle que nous avions vécue jusque-là. Puisque placée, elle, sous le signe de ce que l'apôtre appelle la justice. Une vie selon Dieu, donc. Selon Dieu et pour lui. Soustraits à l'empire du mal, nous sommes enfin désireux et capables de faire autre chose que pécher. Nous pouvons faire le bien et, ce faisant, non seulement être agréable à Dieu, mais encore faire sa joie, comme Christ fait sa joie depuis toujours, lui le juste par excellence. C'est ce que Zacharie, toujours inspiré par l'Esprit Saint, appelle dans les versets 74 et 75, le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et nous voici donc définitivement au clair sur la vraie finalité de l'œuvre du Sauveur. Nous permettre de mener tous les jours, que le Seigneur nous donne ici-bas, une vie qui, par sa sainteté et sa justice, sa justesse, s'élèvera à la hauteur d'un culte. Par sa sainteté d'abord, entendez ici l'absence complète de souillure, par sa justice ensuite, comprenez la pratique positive de tout ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors je pose maintenant la question, nous qui avons été miraculeusement et gracieusement affranchis du péché, menons-nous aujourd'hui déjà une vie de cette qualité ? Où ce que nous pensons, disons et faisons aujourd'hui ressemble étrangement à ce que nous pensions, disions et faisions hier. Permettez que je cite à nouveau l'apôtre Paul, lettre aux Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2, traduction Bible en français courant une fois encore, frères et sœurs. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Et vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable à ses yeux, ce qui est parfait. Voilà pour l'hymne à la grâce de Dieu que nous avons découvert et goûté dans le chant du vieux, très vieux Zacharie. Il nous faut conclure. Son fils à peine né, Zacharie exulte. Outre qu'il est en lui-même un sujet de joie immense, cet avènement est un signe. Le signe que Dieu est sur le point de faire grâce à son peuple. Que celui qu'il a désigné pour le sauver est en route et qu'il est désormais tout proche. Si proche qu'il est permis d'en saluer déjà l'aimable apparition. D'où son poème, ode magnifique au Dieu à jamais fidèle à ses promesses et miséricordieux. Ma question à ce stade est simple. Se peut-il que nous ne fassions pas au moins aussi bien que lui, Zacharie, ce soir ? celui dont il saluait à l'avance l'œuvre rédemptrice. Ce Sauveur est paru. Jésus est venu jusqu'à nous. Vrai Dieu et vrai homme. Il a souffert, a été crucifié, est mort, a été enseveli, afin d'être une victime offerte en sacrifice pour tous les péchés et d'apaiser la colère de Dieu. Et puis il est ressuscité des morts par la puissance glorieuse de son Père, le troisième jour, entraînant dans son triomphe, je dis bien entraînant dans son triomphe, tous ceux qui croiraient en lui, qui mettraient leur confiance en lui pour leur salut. C'est pourquoi, nous qui avons placé notre foi en lui, nous pouvons affirmer ce soir que nous avons échappé à la mort. Vivant déjà, nous allons vers la vie, la vraie, et que le péché a perdu le pouvoir qu'il avait sur nous. Que nous sommes enfin libres, libres de nous attacher à Dieu et de lui offrir le culte qu'il attend depuis toujours de tous, à savoir qu'ils se donnent à lui eux-mêmes pour un service chaque jour plus attentif, chaque jour plus empressé, chaque jour plus joyeux. Oui, le Sauveur, entrevu par Zacharie, notre Sauveur, est paru. Et nous garderions le silence, n'exulterions pas comme Zacharie a exulté. Pour moi, pour nous, je l'espère, nous bénirons sans nous lasser jamais le Dieu qui, en Jésus, nous a fait grâce. Les paroles de ce cantique, pour terminer, chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un Sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter ses forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté. Pour diriger la voix de tous ses rachetés, dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra. Consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est, le verra. Tel qu'il est, le verra. Amen.